Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est Lecture à deux voix. La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés.
Il est temps de prendre le large, de voguer vers d'autres latitudes, de rompre les amarres avec la routine des jours tristes. Je vous propose donc, pour partir en vacances, deux invitations au voyage. La première d'entre elles s'intitule « La promesse du large ». Il s'agit du troisième roman d'Arnaud de Lagrange qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Arnaud de Lagrange, qui a remporté le prix Jules Verne pour Les Vents Noirs et le prix Roger Nimier pour Le Huitième Soir, n'en est pas à son coup d'essai. Son troisième roman est tout empreint de poésie et nous relate la lente métamorphose d'un jeune homme, Aidan, qui ne se remet pas ou peu du naufrage ayant causé la mort de ses parents. Le récit qui s'ensuit s'apparente davantage à une tentative de réconciliation avec soi-même, avec ses ombres, qu'à une vague tentative de résilience. En navigateur averti, Arnaud de Lagrange évite tous les écueils du roman psychologique. Il explore avec tact et délicatesse les blessures familiales non cicatrisées, les non-dits, les actes manqués, les silences gênants, les gestes qui font et défont ce que disent les mots, et des mots qui construisent ou déconstruisent ce qui ne se dit pas forcément. Aidan a 26 ans, il est orphelin de père et de mère. Ses parents ont, comme je l'ai dit, disparu en mer. Élevé par ses grands-parents en Irlande, il a une forme d'allergie très prononcée pour la mer et rejette tout ce qui, de près ou de loin, pourrait lui rappeler la mort tragique de ses parents. Mais la destinée en a peut-être décidé autrement. Lors d'une visite dans un musée londonien, il découvre un tableau de Turner qui exerce sur lui une étrange fascination, un véritable déclic qui lui donne envie d'affronter les ombres du passé. Aidan arrive donc un beau matin au port de Lochmarich, tout près de ses côtes où ont succombé ses parents, dans un village de marins pêcheurs où pèse le poids du silence et de toute une responsabilité collective. « J'ai grandi, nous dit Aidan, face à l'assassin de mes parents. Le jour, la nuit, il était là, devant mes yeux, dans mon dos. Je sentais son odeur et son souffle. » Sa respiration lente aux heures clémentes et saccadées, les jours agités. Tour à tour sombre et lumineux, puissant, immense, d'une grande arrogance, je ne pouvais rien contre lui, alors je le fuyais. Cet ennemi, vous l'aurez deviné, c'est bien évidemment l'océan, l'omniprésence de l'infini, la violence des éléments qui dictent en ces terres bretonnes jusqu'à l'étroitesse des rues, jusqu'à la déferlante des flots qui ont englouti tant et tant de vies. Une fois arrivé à Lochmarich, Aidan se lie d'amitié avec un pêcheur qui le présente et l'introduit dans le cercle très fermé des matelots. Il croise aussi la route de Manon, une restauratrice de vitraux, qui va peu à peu le réconcilier avec son propre corps et le guérir de son aversion pour l'océan. Sa liaison avec Manon le rapproche de cet environnement maritime qu'il croyait hostile. De retour en Irlande, il s'oblige à affronter seul la haute mer. « Je vais au désert, nous dit-il, je m'enfonce en mer comme d'autres vont dans les sables, pour y chercher le silence et une part d'eux-mêmes. Il est trop tôt pour rentrer, cela m'est apparu comme une évidence au sortir d'une nuit de veille. Je n'ai fait qu'une partie du chemin, je suis resté au bord. Pour descendre plus profond, il me faut du poids, donc de la solitude. Traîner en route, être à l'écart, j'ai besoin du large. » Après avoir redécouvert la nage en eau libre, Aidan renaît en effet à lui-même et reprend en main le sens de son histoire et, comme il le précise lui-même, devient maître de son sillage. « Le large, nous dit-il encore, m'a mené à mes terres intérieures. Le silence y permet d'entendre le murmure assourdi de l'âme. » Nul doute que de nombreux lecteurs apprécieront cette renaissance à soi-même et ce cri d'amour à la liberté retrouvée. La solitude de l'homme face aux éléments n'est en effet rien en comparaison du combat qu'il se livre à lui-même. Arnaud de Lagrange nous offre ici un bien bel éloge de l'infini qui ne laissera personne indifférent. Deuxième bonheur de lecture avec ce premier roman, Une île pour elle, qu'Anne Solange Muis vient de publier aux éditions Phébus. Une heureuse surprise, une immersion totale au sein de l'océan et de la nature, puisqu'il est ici question d'une expérience insulaire, celle que Louise, une toute jeune chercheuse inexpérimentée, mène au large de Concarneau, dans une toute petite île appelée l'île aux moutons. Sa mission, s'installer dans une cabane de pêcheurs afin d'étudier une colonie d'hirondelles de mer qu'elle observe, surveille et comptabilise. Si ses conditions de vie sont on ne peut plus spartiates, elle réussit néanmoins à survivre en puisant dans la richesse de sa vie intérieure. Son seul et unique interlocuteur, et son seul lien, j'allais dire, avec le continent, n'est pour l'heure que son professeur, François, qui l'appelle régulièrement et la guide dans cette épreuve. Car vivre sur une île quasiment déserte, sans eau courante ni électricité, n'est pas de tout repos. Tantôt elle doit faire face aux aléas du vent et de certains avis de tempête, tantôt elle se trouve confrontée à la visite éclair de plaisanciers ou de groupes de touristes, peu respectueux de la faune et de la flore. En arrière-plan de ce récit introspectif se tisse un autre drame, celui de son père qui est en fin de vie et qui vient de faire une crise cardiaque. Ne pouvant quitter son poste de guet, la jeune femme est assignée à résidence et poursuit bon gré mal gré ses observations ornithologiques. Voici ce que l'on peut lire sur la personnalité atypique et un peu sauvage de cet insulaire. Louise n'était pas encline à donner aux autres le sourire qui leur manquait et se méfiait des personnes qu'elle ne connaissait pas. Sans être misanthrope, elle préférait que la rencontre ne soit pas imposée. Ce qu'elle voulait, c'était l'île pour elle, et ce que désiraient les visiteurs, c'était la même chose. Et oui, avoir une île à soi comme on aurait une chambre à soi est l'un des sujets de réflexion de cette ode à la nature. Disposer d'un espace à soi, d'un refuge avec vue sur la vie, est aussi une priorité pour cet apprenti ornithologue qui, en se coupant de la réalité urbaine, se rapproche de plus en plus de l'imperceptible et de l'enfance du monde sensible. Voilà encore ce que l'on peut lire page 25. Qui sait pourquoi on se met à aimer les îles, ou pourquoi ces terres solitaires laissées à la mer accueillent autant nos fantasmes? L'île hypnose autant qu'elle repousse, peut-être parce qu'elle échappe tout autant qu'elle attache. Pour Louise, c'était le refuge des enfants perdus et le bout du monde qu'il lui fallait acquérir. Elle savait là-bas qu'elle trouverait la paix, elle serait libre. Dans ce paysage océanique, l'île aux moutons lui apparaît, peut-on lire encore un peu plus loin, comme une étole aquatique épousant les formes de chaque relief. On pourrait en dire autant de ces phrases et de cette écriture, à la fois sobre et subtile, qui procède par ricochet et par ondes concentriques sur l'imaginaire du lecteur. Ce premier roman a la fragile beauté d'une aquarelle réalisée en bord de mer. On est immédiatement capté par ce cheminement intérieur qui évoque à mi-mots la nécessité d'une solitude choisie et parfaitement assumée. Un bien agréable moment de lecture que je vous recommande vivement.
C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio, à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.